changer les fils et les filles, et on reprend les fils et les filles, puis qu'ils mourent. Et on voit très bien que, au-delà de la mort de chacun de ces personnages, il y a un courant de vie qui continue. Et ça, c'est important. Et voilà un fil conducteur de l'ensemble des 11 premiers chapitres. La vie est plus forte que la mort. De plus, il est vraisemblable que l'auteur voulait porter un tel message à son époque. Si ce texte date bien du temps de Salomon, comme le prétend l'hypothèse classique, sa portée est claire. Il s'agit d'une mise en garde, voire d'une critique voilée de la politique peu à peu mise en place par le fils et successeur de David. Ça, c'est la première édition du texte. Lorsque le texte a été revu et recomposé après l'exil à Babylone, il va avoir sa connotation babylonienne dont parlait une personne. Il s'agit d'une mise en garde, voire d'une critique voilée de la politique peu à peu mise en place par le fils et successeur de David, c'est-à-dire par Salomon. Le premier livre des Rois décrit en effet Salomon comme un administrateur. C'est lui qui organise le royaume constitué par son père. Son organisation est fortement marquée par le centralisme. Non seulement le roi dispose maintenant d'un gouvernement et d'une administration, mais il quadrille le pays en 12 circonscriptions, dirigées chacune par un préfet et prenant en charge les dépenses de la cour, de l'armée et de l'administration. Et la suite du texte montre le poids de ces charges assumées par le peuple. De plus, Salomon est un grand bâtisseur. On connaît bien sûr le temple de Jérusalem qu'il met 7 ans à construire, mais il édifie également son palais, entreprise qui durera 13 ans. Et il fabrique d'autres palais, évidemment, dans le pays. Mais Salomon aménage sa capitale, fortifie ou même rebâtit certaines villes du pays, parmi lesquelles des villes d'entrepôt et de garnison, signe et garantie du pouvoir d'un roi capable de nourrir et de défendre son peuple. Il se constitue même une flotte. Mais une telle politique, qui forge le renom d'Israël et de Jérusalem, implique d'importantes dépenses en vue de financer ces nombreuses entreprises qui servent surtout de prestige au grand roi. Il y a même là la reine de Saba là, qui vient voir de quel bois il se chauffe. Et c'est le peuple, bien sûr, qui va supporter les coûts de l'opération. En plus des impôts pour l'entretien de la maison de Salomon, le peuple est encore soumis à la corvée, au travail d'État obligatoire, sous la conduite de contremaîtres d'État. Bref, le règne de Salomon concrétise le triste tableau de la monarchie brossé au chapitre 8 du premier livre de Samuel par Samuel lui-même. Le roi prendra vos enfants et vos serviteurs pour son armée et ses travaux multiples. Il s'emparera de vos moyens de production agricole. Il lèvera l'impôt sur le revenu de votre travail. Et vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Et c'est vrai qu'à un certain moment d'Israël, Salomon, malgré sa grandeur, est devenu le type du royaume totalitaire. Il est d'ailleurs frappant de constater que ce règne se termine, comme dans l'histoire de Babel, par la dispersion du peuple. En effet, les 10 tribus du nord du pays n'acceptent plus les charges de la monarchie, et c'est la dislocation des 12 tribus d'Israël. Dans un tel contexte, il est vraisemblable, je ne dis pas il est certain, c'est vraisemblable que le premier récit étudié, celui du Jardin d'Éden, ait également une portée politique. Dans un royaume, le premier homme, c'est le roi. Il est placé par le Seigneur au centre de son royaume, comme l'humain dans le jardin, pour le travailler, le servir littéralement et le garder. Mais il n'est pas tout puissant. S'il a tout reçu en tant que roi, il n'a pas tout à prendre. Il est lié par une loi. S'il accepte ainsi de relativiser son pouvoir et de le mettre au service du peuple sans jouer au Dieu surpuissant qui n'est pas le Dieu d'Israël, alors il assurera la paix et le bien-être dans son jardin, dans son royaume. Mais si, à son propre profit, Il fait peser son pouvoir sur le peuple, il engendrera la division, la violence, la révolte. Et oui, s'il exprime les choses de cette manière, c'est pour vous montrer comment l'auteur lui-même, lorsqu'il compose, le premier auteur, le yaviste, et le deuxième auteur, lorsqu'il compose, composent chacun dans une réalité contextuelle, dans une société déterminée. Quand Bruegel, ou bien Van Dyck, ou bien un verrier de Chartres ou d'Amiens, écrit la Bible dans des vitraux ou dans une peinture, comment est-ce qu'il habille les gens? Ceux de son époque. Et vous avez la même chose dans ce récit. Donc il y a des allusions dans ce récit à l'histoire d'Israël. Il ne faut pas du tout s'en étonner. C'est normal. Est-ce qu'il faut connaître tout ça pour lire la Bible? Grand Dieu, non. Il ne faut pas connaître tout cela. Mais il serait dommage qu'au siècle d'Internet, alors que nous avons tant de choses à notre disposition, des bibliothèques entières qui interviennent dans notre petit écran, il serait dommage que nous ne connaissions pas quand même un peu ces réalités-là, alors qu'elles font partie de notre culture. C'est simplement cela. Chacun à la mesure de ses possibilités. Tout le monde n'a pas Internet dans son bureau, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est dans l'air du temps.
C'est dans l'air du temps.
Quoi?
Pas du tout.
Est-ce que
des livres sont sur Internet?
Non mais, il faut quand même réfléchir cela aussi dans notre situation. Évidemment. Ben oui. Et ça avance. Et de plus en plus. L'histoire yaviste des origines trouve un prolongement dans l'histoire des patriarches, puis de l'Exode, de l'Alliance, de la marche au désert, jusqu'aux abords de la terre promise. C'est pour ça qu'il faut lire tous ces textes à la suite et les relire pour avoir, vous voyez, pour au-delà de la matérialité du texte pour découvrir les grandes lignes. Comme au-delà des notes, dans une symphonie, vous lisez finalement la courbe musicale. Et c'est ça qui vous reste dans l'oreille. Même si elle apparaît comme une histoire de raté, raté de l'humain et d'Ève, raté de Caïn, raté des gens de Babel, il n'a pas dit raté de Noé, on peut dire le raté de Noé, comme une histoire de malédiction, elle ne finit pas là. À l'humanité dispersée à Babel, le Seigneur veut toujours donner sa bénédiction et sa vie. Mais comme elle est éclatée désormais aux quatre coins de la terre, Dieu va inventer un nouveau moyen d'assurer la bénédiction créatrice à ceux qui connaissent la malédiction et la mort. Ce nouveau moyen, c'est l'élection d'Abraham. Et tout le problème va être maintenant de découvrir comment Abraham, c'est nous. Comment Abraham, il ne faut pas le rejeter non plus, je ne sais combien, vers 1850 avant Jésus-Christ, mais Abraham, c'est notre histoire. Et il va falloir redécouvrir dans chacune des histoires que nous allons lire, que ce soit l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des fils de Jacob et de Joseph, c'est relire notre propre histoire. C'est pour ça que la Bible a été faite. Dieu appelle un homme à rompre avec son passé pour se lancer dans une aventure. Quitte, va vers toi. En faisant confiance à la parole de Dieu. Où l'a-t-il entendu, cette parole de Dieu? Qui ne lui donne rien, mais qui lui promet le don d'une descendance et d'une terre. En répondant à l'invitation divine, Abraham renverse l'attitude d'Adam, qui n'avait pas cru la parole de Dieu. Il avait cru plutôt celle du serpent, du terrestre, alors que le don lui était déjà donné. En cela, parce qu'il écoute la parole de Dieu, parole d'arrachement, mais aussi de promesse, parole d'exil, mais aussi d'avenir, Abraham adopte une attitude neuve en humanité et s'ouvre à la bénédiction que Dieu ne cesse de vouloir donner. Il reçoit la bénédiction, il devient bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas sa propriété. Elle est destinée à le traverser et à rejoindre toutes les familles de la terre. L'élu sera donc au service de la bénédiction, comme Adam était au service de la bénédiction. Croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Et voilà que la terre commence à s'emplir. La bénédiction n'est pas sa propriété. L'élu sera au service de la bénédiction. Il en sera l'agent, à condition du moins qu'il n'en soit pas jaloux et qu'il ne la considère pas comme un privilège. Quant aux nations, elles auront accès à la bénédiction si elles aussi adoptent une attitude neuve, en ne jalousant pas l'élu, comme s'il était un privilégié, mais en se réjouissant avec lui de ce que la bénédiction lui a été donnée pour le bonheur de tous. Ça, c'est la Bible. Bref, la bénédiction est à ceux qui quittent la jalousie, qui refusent d'entrer dans la logique de Caïn ou du serpent. Je bénirai qui te bénira, qui reconnaîtra avec joie que tu es porteur de bénédiction, mais qui te traitera à la légère, je le maudirai. Il restera dans le malheur et la mort. Mais cela, nous dit-il, c'est une autre histoire. Nous verrons comment, justement, cela, c'est le fil conducteur de l'histoire qui continue. À demain. Femmes, quelles sont nos attitudes vis-à-vis de la création? Polluons-nous, ne polluons-nous pas? Entrons-nous dans cette liturgie de la semaine? Quelle est notre manière d'entrer dans une véritable liturgie? Tous les jours, c'est une liturgie. Les 7 jours et le 8e. Est-ce que dans nos contacts les uns avec les autres, nos contacts fraternels, sont-ils vraiment fraternels ou bien empreints de violence? Où est notre violence? Dans nos rapports avec nos contemporains qui ne pensent pas de la même manière que nous, qui ne vivent pas les mêmes choses, quels sont les rapports et quelle est la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire du dépassement de nos situations, du surnagement au-dessus de nos situations de violence? Comment sommes-nous artisans de paix, autrement dit, dans notre monde d'aujourd'hui? Dans un monde tellement divisé, est-ce que nous acceptons que l'autre soit autre, tout en ayant avec eux et avec nous un projet de véritable construction, pas de nous faire un nom, mais de recevoir un nom. Et donc, relire la Genèse, c'est nécessairement descendre dans ses propres profondeurs, dans nos propres profondeurs. Et je crois que c'est important de pouvoir le faire. Je voudrais encore, pour revenir sur ce que nous avons dit hier, prendre deux choses. Il m'a été remis un document de la méthode catéchétique de Namur, la FATA, pour trouver Dieu, catéchèse des 3 à 7 ans, un dossier pédagogique. Et puis il parle justement de tout un fascicule, je me suis attaché à cela, sur le déluge, l'arc-en-ciel de Dieu. Eh bien, je trouve que c'est très bien fait. Très bien fait. On part de l'aujourd'hui, un petit garçon qui est avec son grand-père, et son grand-père qui est souffrant parce qu'il voit qu'il y a deux clans, une histoire de violence, histoire qui aurait pu se passer en 1990 à Beyrouth, à Bucarest, mais aussi à Gaza, en l'an moins 1000. Oui. Donc toutes sortes de... Mais c'est un dialogue entre le grand-père et le petit qui essaie de comprendre et dit qu'il faut les tuer tous. Oui. prend le point de vue de Dieu, il faut le tuer tous. Et le grand-père trouve que ce n'est pas une solution. Puis on prend le texte, et alors, on pose la question, et c'est très bien fait, parce qu'il pose la question exactement comme le texte doit la poser, normalement. Quelle image de Dieu apparaît à travers ce texte? Et il pose la question comme ceci, Dieu serait-il pervers? Est-ce que cette image d'un Dieu pervers, qui veut se venger de la violence de l'homme, est-ce qu'elle est juste? Et le texte pose exactement ça, il fait comme si, il parle comme si c'était l'image de Dieu. Ce sont des hommes qui parlent. Dans ce conte pourtant plein de poésie, nous serions tentés de découvrir un Dieu cruel, despote, jaloux des hommes. Voilà. Et pourtant, si nous regardons bien le texte, nous remarquerons le soin avec lequel l'écrivain sacré décrit la tendresse de Dieu en des mots empreints de grandeur d'âme. Donc il faut souligner, quand on en parle aux enfants, Dieu voit. Dieu est peiné. Dieu se repent. Dieu s'afflige le cœur. Dieu dit dans son cœur. On s'imagine l'intériorité de Dieu, qui sont les sentiments de l'homme, évidemment. Ces sentiments de l'homme, on les place en Dieu. Et il y a tout un travail que le texte va faire pour purifier ces sentiments de l'homme vis-à-vis de Dieu. Comment il voit Dieu. Et le récit nous fait assister à un geste qui en dit long sur la sollicitude de Dieu. C'est lui qui ferme la porte pour que rien de fâcheux n'arrive à Noé. Il la ferme bien, comme disait un enfant. Et il l'a bien fermée, vous savez. Bien fermée. Comme ça, il ne pourra pas sortir, il ne pourra pas se faire mouiller. Voilà. Dans l'esprit de l'écrivain sacré, dont la foi scrute le cœur de Dieu, l'intention réelle de Dieu n'est pas de tout liquider pour tout recommencer. Nous faisons comme ça, nous, on abat la maison et on recommence à neuf. Non. Il organise avec beaucoup de soin le sauvetage de Noé, et autour de celui-ci, de la famille humaine et de toute la race des vivants. Il prend un soin extraordinaire à faire cela. Il fait les plans de l'arche lui-même. Il dit comment il faut faire. Pouvait-il en être autrement? Dieu qui avait fait le ciel et la terre, avait vu que cela était bon, pouvait-il ne pas protéger ce qu'il avait créé? En définitive, l'auteur sacré veut nous faire partager ce qu'il a lui-même découvert. Voilà. La logique de son Dieu est une logique de vie. Choisir la vie, c'est renoncer à toute forme de violence destructrice, c'est entrer dans la voie de la douceur. La vraie douceur, c'est être plus fort que la capacité de détruire. En acceptant d'entrer dans cette logique, on prend les mœurs de Dieu, on devient juste, pas comme Noé, mais comme Dieu. Pourquoi Noé était-il juste? Parce qu'il fait comme Dieu. Il s'ajuste à la manière de Dieu. Et donc, c'est raconté comme cela, voyez. Et puis alors, il y a toutes sortes de documents qui sont apportés, et on explique, qu'est-ce que c'est que l'arche, pour un enfant, il faut expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un olivier, c'est pas du tout ce que c'est qu'un olivier, surtout dans nos mentalités, un rameau d'olivier frais, dit le texte. Là où la mort semblait s'être installée, voici que surgit le renouveau de vie. Il est frais, doux, il a le goût de l'espérance. Vous voyez? Comment on peut doucement amener un enfant à découvrir des choses pareilles? La colombe, qu'est-ce que c'est que la colombe? L'arc-en-ciel, et puis alors on va vous donner, on va montrer une colombe, on va vous donner des affiches arc-en-ciel, on va expliquer pourquoi l'arc-en-ciel, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai même vu une catéchiste qui avait distribué des bics arc-en-ciel. Et on explique ce que c'est la différence de toutes les couleurs. Pourtant, il n'y a qu'un arc et il y a toutes les couleurs. Chacun peut s'y retrouver. Et nous-mêmes, nous écrivons dans différentes couleurs. Avec l'enfant, on peut utiliser des schèmes comme ça pour montrer à la fois l'unité et la division. La distinction et la dispersion, puisqu'il vient d'après, la dispersion. Puis alors, l'oiseau de la paix, tous les sigles, sigle de l'Arche, sigle de Jean Vanier, Amnesty International, l'oiseau de la paix, etc. Différents sigles pour meubler l'imaginaire de l'enfant, pour lui faire reconnaître des choses. Et alors, on vous reprend le texte, comme il faudrait le faire dans une vraie catéchèse, on reprend le texte comme on pourrait le raconter à des enfants, sans édulcorer ou sans changer le texte, et en même temps en le simplifiant, bien simplifié. Hein, l'enfant ne comprend pas tout. Mais Dieu parle à Noé, « Noé, tu vas te faire un grand bateau de bois avec un toit au-dessus, et quand il sera fini, tu entreras dedans avec tous tes enfants et leurs mamans, et tu y feras aussi entrer les bêtes de toutes sortes, les plus grosses et les plus petites. » Noé obéit, fait que ce que le Seigneur lui dit. Et quand le bateau est fini, il entre dedans avec toute sa famille. Le Seigneur vient lui-même fermer la porte du bateau pour être sûr que Noé sera bien à l'abri. Alors il se met à pleuvoir sans s'arrêter pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours et de nuits. L'eau remplit toute la terre. Sur la terre, il n'y a plus rien. Plus d'hommes, plus de bêtes, plus d'arbres, plus de fleurs, plus d'oiseaux. Il n'y a plus que de l'eau. Tout est mort, noyé. Mais Noé, avec sa femme et ses enfants, est toujours bien vivant dans son bateau. Signe que la vie est toujours présente. Un jour, le Seigneur Dieu arrête la pluie. Et l'eau commence à s'en aller tout doucement de la terre. Vous voyez, il y a moyen d'expliquer les choses très simplement avec le langage des enfants, mais pour qu'ils découvrent, pour qu'ils sentent, plus que découvrir encore, à travers le texte et à travers la manière de le raconter, pour qu'ils sentent quelque chose qui passe. Il faut que pour cela, ils découvrent l'image de Dieu qui est en nous quand nous le racontons. Si nous transmettons seulement un truc sans que ça passe par notre vie, il y a chance que ça passe pas. C'est un truc qui reste extérieur. Mais si ça passe par notre vie, et si nous disons, si nous exprimons à travers là tous les déluges que nous avons vécus, c'est-à-dire toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés, et surtout ces épreuves qui nous font le plus mal, c'est-à-dire les fautes, les violences que nous avons exercées vis-à-vis d'autres personnes, violence en parole, violence en réalité, en acte, et si nous nous laissons baigner par ce déluge de Dieu dans notre propre vie, eh bien, vous savez, le ton avec lequel nous raconterons ce déluge sera vrai. Voilà. Alors, je vous parlais hier de Babel. J'avais un livre très compliqué sur Babel. Très compliqué parce que c'est toute une histoire du langage, de la communication. C'est quelque chose qui va très loin. Mais qui parle de Babel, du texte de Babel. C'est François Marty, c'est un père jésuite du sud de la France, qui a écrit donc ce livre, La bénédiction de Babel. Je vous dis, c'est un livre difficile parce que c'est une réflexion sur les sciences actuelles du langage et de la communication. Et il a un petit chapitre sur la confusion. La confusion n'est pas bonne. François Marty, M-A-T-R-Y, La bénédiction de Babel, collection La nuit surveillée, Auxerre, et 1990 ou 1990. Et alors, sous-titre, Vérité et communication. C'est le problème de Babel. Le problème de Babel, tel qu'il est vu aujourd'hui, hein, par des gens qui réfléchissent, des philosophes, qui réfléchissent, c'est un philosophe, hein, François Marty, des gens qui réfléchissent sur le langage et la communication. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Quand est-ce qu'on communique? Quand est-ce qu'on communique pas? Mais ils tirent tout ça de Babel. La confusion n'est pas bonne. Et on s'excuse quand on en fait quelqu'une, car cela a pu introduire de la brouille. Il est vraiment utile de pouvoir donner un nom aux choses, et plus encore peut-être aux personnes. Aussi, faut-il laisser jouer encore l'effet de surprise du mythe. C'est Dieu qui introduit la confusion, là où l'homme s'appliquait à donner un nom. C'est ça qui est étrange dans ce texte. Pourquoi est-ce que Dieu... Il dit, ça va bien, le projet est unique, on va se faire un nom, ça va bien. Ah oui, mais ce projet peut être unique et totalitaire. Comme il y a un projet qui peut être tellement foisonnant qu'il n'y a plus d'unité. Donc on voit bien que Babel est une réflexion sur comment cherchons-nous à respecter la diversité des personnes, la diversité, leur genre de vie différent, en essayant de découvrir où est l'unité. L'unité n'est pas dans le projet humain, il y a une unité qui est plus grande. Unité est plurielle, où trouvons-nous cela d'abord et avant tout dans la Trinité. Cette réflexion peut mener, évidemment, hein, comme a mené plusieurs pères de l'Église, à découvrir ce que c'est que la communication trinitaire. Aussi faut-il laisser jouer encore l'effet de surprise du mythe. C'est Dieu qui introduit la confusion là où l'homme s'appliquait à donner un nom. L'habileté du récit est de préparer la surprise, mais avec des indices si légers que le plaisir de leur découverte est réservé au moment où le contenu du mythe s'arrête. Et c'est bien dit. Pour laisser le jeu de son caractère symbolique qui, comme dit Ricoeur, donne à penser et donne à parler. Ces textes sont faits pour qu'on parle autour de ce texte. Des lendemains du déluge invitent à ne pas trop s'étonner de la langue unique annoncée au début du mythe. La famille du fondateur de l'humanité nouvelle a survécu avec sa langue, que l'on peut supposer unique. Il semble qu'on parlait la même langue dans l'arche, entre 8 personnes. On peut même, si l'on veut, faire encore plus ancienne cette langue, en y voyant la langue première que Dieu donnait, en mettant dans l'argile qu'il venait de modeler le souffle dont le destin est de devenir voix. Et on peut considérer comme fort convenable que cette langue première se soit conservée dans la seule famille demeurée juste. Hein? Et ici, on voit bien, il fabule. Hein? Il n'est pas non plus étonnant que l'arrivée dans la plaine de Shinéar suscite des projets industrieux, celui de la ville, avec sa tour dont le sommet touche le ciel, donc ça c'est pas étonnant. Projet qui ne devait guère étonner les entrepreneurs de nos gratte-ciel, ce qui peut nous aider à le gratifier du sourire qui limite l'hyperbole de l'expression. On sait bien que ce texte nous raconte quelque chose, et on sourit. En revanche, on peut commencer à s'inquiéter quand est explicitée la visée de l'entreprise. Le nom que l'on va ainsi se donner sera œuvre humaine, de bout en bout, tout comme la tour et la ville. De briques et de préparation de bitume. Hein? C'est nous dirions aujourd'hui de béton et d'essence, hein, de pétrole, pétrodollar. La monotonie de la même langue va réduire l'humanité nouvelle aux matériaux homogènes de l'entreprise bien plantée. On se réduit soi-même à la matière. On devient finalement le serviteur de cette matière. Et finalement, tout va se confondre dans la fourmilière, où les différences ne sont permises que parce qu'elles sont des catégories, des noms qui assurent le même dessin. Et dans nos sociétés, on travaille par catégorie, par nom, hein, par, voilà, par fiche. C'est une humanité sans ancêtre, égarée de vouloir être à elle-même son propre père et sa propre mère, le comble de la confusion, personne ne pouvant savoir d'où il vient, et n'ayant pas plus à penser à un ailleurs que n'ont à y penser les briques bitumées de la ville qui commence. Babel est vraiment bien nommé, et c'est un très grand plaisir que donne le mythe à faire découvrir que la confusion était à son extrême quand Dieu s'avise de descendre, et qu'il était grand temps de venir brouiller ses projets écrasants, pour donner à chacun la possibilité d'être lui-même et permettre à un homme, selon la littéralité de l'hébreu, pour introduire le premier énoncé du projet, de s'adresser à son prochain. Or, cela ne saurait se faire s'il n'y a pas cette distinction que l'on nomme justement rapport d'altérité. L'exégèse scientifique, cela a été rappelé en commençant, il a fait tout un chapitre là-dessus, explique que le sens originel de Babel est porte du ciel, celui de confusion n'étant qu'une étymologie populaire. Il se peut que ce soit là l'exact antécédent du terme du mythe, sa cause, donc son explication. Le mythe est souvent fait pour dire pourquoi on appelle tel lieu de telle manière. Mais il faut dire fermement qu'elle deviendrait insignifiante si elle aboutissait à faire de l'explication populaire qu'une fantaisie, perdant ainsi tout ce qu'elle découvre de la vérité humaine. Aussi bien faut-il ajouter, pour l'honneur de la science, que la linguistique saussurienne, il a fait toute une analyse de Saussure et de sa linguistique précédemment rappelée, permet de reconnaître ici le jeu de la structure paradigmatique, et voilà maintenant qui va faire le rapport entre le mythe de Babel et tout le vocabulaire difficile de l'analyse du langage aujourd'hui, de reconnaître ici le jeu de la structure paradigmatique, un paradigme, c'est-à-dire exemplaire, avec les associations qu'elle appelle, et que la langue des conteurs et des sages s'est si bien utilisée dans la ciselure de ses formes, qui en fait vraiment une langue populaire. Cette avance de la science délivre des platitudes de l'explication causale. Et, c'est une excellente réflexion qui demande bien sûr une belle attention, mais c'est une excellente réflexion sur tout ce à quoi donne à penser un texte comme Babel dans le contexte d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la communication ? La communication devient de plus en plus profonde. Je parlais hier d'Internet. Et en même temps, la communication entre les hommes et la solitude. La communication entre les hommes devient de plus en plus difficile. Les gens ne savent pas dire ce qu'ils ont à dire. Ils n'ont plus à qui parler. Et la solitude devient de plus en plus grande. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de communication au niveau planétaire, alors que les hommes sont seuls? Tout cela, ce sont des réflexions qui viennent à partir d'un texte comme celui-là. Il est fait pour susciter les réflexions. Maintenant, il y a un prolongement dans la Genèse. Une fois qu'on a donné ces quatre ou cinq clés, enfin non, le premier je ne le considère pas comme une clé, c'est plutôt un arrière-fond, l'arrière-fond que toute la création de Dieu est bonne. Et sur le fond de cette création, il y a, comme je vous l'ai dit, quatre problèmes qui sont mis en évidence. Le problème de l'homme et de la femme, cette relation. Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Comment sont-ils l'un pour l'autre? Quel est le projet de Dieu dans l'homme et la femme? Doivent-ils faire la même chose? Sont-ils les mêmes? Est-ce que la structure psychologique, physiologique, physique signifie quelque chose dans le plan de Dieu? Oui. Un problème vraiment très important aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pour essayer de découvrir vraiment, y a-t-il une révélation, Dieu fait-il une révélation à l'homme à travers son être sexué? Est-ce que tout ce qui constitue la réalité sexuée de l'homme est important et de quelle manière? On entend souvent poser la question, et pas seulement la question, mais la question devient souvent, même parfois violente dans les discussions, pourquoi le pape s'occupe-t-il toujours, et on dirait d'abord, comme s'il n'avait que ça en tête, de la question sexuelle et de la fécondité. Pourquoi le fait-il? Mais c'est par fidélité au texte de la Genèse. C'est parce que là, c'est la première réalité. Si l'homme et la femme se découvrent mutuellement dans l'émerveillement, et s'ils sont suscités, s'ils se suscitent l'un l'autre à un émerveillement de plus en plus grand, ils découvriront de plus en plus la présence de Dieu l'un dans l'autre. Et leur démarche deviendra de plus en plus visitation, au sens de Marie et d'Élisabeth. C'est-à-dire une présence de Dieu qui se donne et qui se reçoit constamment. Et pour cela, il faut que l'on puisse être l'un et l'autre devant Dieu. C'est-à-dire dans une nudité, au sens biblique du terme, sans honte, c'est-à-dire dans sa vulnérabilité. Mais nous protégeons, c'est bien le texte de la Genèse, nous protégeons toujours notre vulnérabilité. Nous ne voulons pas être poussés dans nos derniers retranchements, comme nous disons, et par conséquent, nous établissons des préservatifs de tout ordre, des préservatifs qui empêchent de découvrir cette présence de Dieu dans la relation elle-même. Mais c'est la toute première relation. Et si cette relation n'est pas bonne, intacte, je dirais, et dans la mesure où elle ne l'est pas, la relation fraternelle ne sera pas respectée non plus. Si dans l'homme et la femme qui sont faits l'un pour l'autre, on ne découvre pas l'altérité comme étant un surcroît qui nous est donné gratuitement, l'autre comme gratuité, avec ses limites aussi, comme les miennes. C'est ça la nudité. Si on se braque uniquement sur la limite, voilà, on fait le travail du serpent. Et c'est extrêmement profond aujourd'hui, cela. Et donc, s'unir et donner naissance à un enfant, ce n'est pas un geste banal, ce n'est pas un geste animal. C'est un geste de respect extraordinaire, et où l'on engage la présence même de Dieu. Donc cet acte conjugal qui est aujourd'hui absolument banalisé, au point que des jeunes ne savent même plus avec qui ils ont ou avec qui ils ont fait ou ne pas fait l'amour, mais c'est vrai, ça devient extraordinaire de voir que ce geste est tellement banalisé que Dieu n'est plus reconnu comme présent. Et c'est ce que le pape, justement, en revenant sans cesse là-dessus, voudrait bien nous donner comme message fondamental. Il le trouve au début de la Genèse. Il n'est pas plus loin que le deuxième chapitre. Pas plus loin. Et à partir de là, la relation à l'autre est découverte. La relation au frère, ami ou ennemi, la relation au frère est découverte à partir de cette relation première. Parce que cette relation première est véritablement complémentaire, tandis que l'altérité du frère est un tout petit peu, va un petit, tout petit peu plus loin. C'est vrai que, concrètement, dans la réalité de l'histoire, la réalité sociale peut parfois amener à découvrir la réalité familiale ou conjugale. Mais la racine est là. Oui, Michel.
C'est quand même assez étonnant que la société aujourd'hui, peut-être parce qu'elle n'a pas cette notion de Dieu finalement, mais on arrive à une aberration de reconnaître, par exemple, le mariage ou un homosexuel sur le mariage.
Évidemment.
Elle ne défend plus finalement une conception de l'homme.
Et vous voyez bien, et justement, et ça c'est un devoir qu'il a reçu, qui lui est donné, un devoir du pape, c'est de le rappeler ça pour l'humanité entière, quitte à ne pas être compris. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas compris qu'il ne faut pas le redire et revenir là-dessus. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement profond, et quand vous lisez, une note que je suppose que vous avez tous lu et étudié, la lettre sur la dignité de la femme, quand vous lisez une lettre comme cela, et que vous la lisez, moi-même je l'ai déjà lu avec plusieurs groupes, des foyers, des religieux, des religieuses, quand on le lit, quand on essaie de dire, tiens, pourquoi il parle comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire finalement, on dit parfois, c'est un langage abscon, on ne sait pas comprendre ce langage-là, c'est un langage de théologien, en plus de la curie. Mais si vous essayez de vous demander, tiens, ces mots vont probablement dire quelque chose s'ils les adressent, si vous essayez de découvrir ce que ces mots veulent dire, vous découvrez une très grande sensibilité, une très grande délicatesse. De même d'ailleurs que sa lettre aux femmes, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi. Et vous voyez, c'est d'ici que ça vient. Et c'est au départ de cette cellule que la relation sociale, relation frère-frère, d'abord fraternelle, relation dans un cadre, dans un petit cadre, peut s'expliciter et se vivre. Et puis, on va plus loin, relation Caïn-Abel, donc, des frères ennemis, ça existe partout, ces frères ennemis. L'image nous est rendue de tous les côtés par nos journaux d'aujourd'hui. Et si vous voulez faire l'expérience, je l'ai parfois fait avec des jeunes, mais on décortique un journal pour voir un petit peu quels sont les présupposés des différents articles. l'article exactement ce qu'il dit, mais ce qu'il dit entre les lignes. C'est-à-dire pourquoi il dit quelque chose, pourquoi il le dit de telle manière. Et ce qui permet d'ailleurs de prendre aussi un regard critique par rapport à la communication. Bon, alors, vous avez alors la société. Car quand on parle de Noé, Noé père et fils, et on le met dans une série d'engendrements, il y a des engendrements avant, il y a des engendrements après. Ça veut dire une série humaine, une série qui se propage par génération. Et donc, ce sont tous les problèmes de compréhension ou d'incompréhension entre les différentes, d'abord, entre les différentes couches d'une même société et entre les différentes générations d'une même famille. Si on introduit ce petit récit qui paraît anodin, hein, de l'histoire de Cam, hein, de Sem et de Japhet, et qui ont une sorte de tendresse respectueuse pour leur père qui s'est enivré, hein, et on ne sait pas très bien quelle est son attitude. On dirait que c'est une attitude de juge. Mais ça permet de nous demander, tiens, quelles sont les attitudes que nous avons vis-à-vis de notre père, de notre mère? Est-ce que nous essayons de les comprendre? Est-ce que le père et le fils essayent de comprendre? Voilà qu'un père, il maudit et il bénit. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut agir? Vous voyez, ces textes nous sont donnés pour susciter la réflexion. Est-ce qu'il faut bénir ou maudire celui qui m'a respecté et celui qui ne m'a pas respecté? Donc, le texte suscite, hein, comme une parabole, suscite une question. Il ne répond pas. Il ne répond pas, c'est à nous de répondre. C'est chacun de nous avoir à jauger notre expérience à partir de ce qui est raconté et qui est toujours quelque peu énigmatique. Alors, la tour de Babel, ben, c'est le problème, comme je vous disais, de la communication entre pays, entre langues. Hein, on fait tous les efforts possibles, on a fait de magnifiques efforts pour arriver maintenant à traduire à l'ordinateur. Vous voulez la traduction de votre texte, eh bien, pour le moment, ce ne sont encore que des bouts de phrases, des stéréotypes qui sont pris, mais on pourra arriver, bien sûr, hein, à une certaine traduction valable, mais qui ne sera jamais la communication orale. Communication orale dira toujours quelque chose d'autre, parce qu'il y a l'attitude d'une personne vis-à-vis d'une autre, et qui ne passera pas nécessairement par la machine. Alors, vous voyez, tous ces problèmes nous sont donnés en vrac, ou plutôt sériés, en quatre points, au début. Et puis, maintenant, on va vous montrer, à travers une histoire, ces mythes n'étaient pas encore une histoire. Ils sont racontés en forme de récit, d'accord, sauf le premier. Et encore. Et c'est toujours « et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit ». Mais c'est pas évident que Dieu dise, hein? C'est pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit? Vous voyez, cette question-là, la première. Et d'ailleurs, c'est celle qui commence, hein, au chapitre 12e. Et maintenant, ce n'est plus « et Dieu dit », c'est « le Seigneur ». Bon, il y avait nom propre, dit à Abraham, nom propre, communication entre deux personnes, Dieu et un homme. Qui est Abraham? Qui sont les patriarches? Ces patriarches qui rencontrent Dieu de temps en temps, à des moments cruciaux de leur existence, à des ménagements, des orientations, on rencontre Dieu. Tout d'un coup, on s'endort, on est dans un pays étranger, et on a peur peut-être de ce qui pourrait vous tomber dessus, on s'endort, et Dieu intervient. Et il prend une échelle pour descendre. Et vous savez, ces récits sont racontés comme cela. La question qui se pose toujours, les enfants la posent d'une manière la même, et les adultes d'une autre manière la même, c'est: est-ce qu'Abraham a existé? Moi, j'ai toujours envie de répondre, et je réponds souvent à les enfants, mais bien sûr, puisque tu existes. Hein? Est-ce qu'Abraham, c'est pas toi? On va un peu voir comment Abraham, c'est toi. On va voir, tiens, quels sont les problèmes d'Abraham. On va voir que ce sont peut-être les nôtres aussi. Et quand un adulte me pose la question, il faut faire beaucoup plus de distinctions. Et l'adulte ne va pas être content quand je lui dis c'est toi, Abraham. Pourtant, c'est beaucoup plus vrai. Mais il va me dire, oui, mais l'Abraham de l'histoire. Oui, l'Abraham de l'histoire a existé. Je leur dis, regardez le livre. L'Abraham du livre, oui, il existe. Et c'est un Abraham qui a vécu peut-être, bah oui, peut-être bien, 300, 400, 800 ans. C'est un Abraham qui a vécu longuement à travers tout un peuple. Le peuple s'est nourri de cette figure, de telle manière qu'il lui a donné, qu'il lui a façonné à cette figure une véritable historicité. Mais je ne sais pas si Abraham, dont on me parle ici, a vécu de 1852, avant Jésus-Christ, à 1834. Ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas si les années qu'on met à son compte sont vraiment des années de 365 jours. Et un tas de trucs que je ne sais pas. C'est le langage de l'épopée, qu'est-ce que vous voulez, hein, quand je lis dans la chanson de Roland, hein, d'un preux, il dit « et déracine un chêne ». Voilà, une minute, hein. Mais c'est vrai. Ou quand je vois un preux qui fend le mort, hein, le sarrasin, là, hein, depuis le casque, il le coupe en deux, il coupe en deux le cheval, et la lance, l'épée va se ficher en terre à 7 ou 8 coudées. Langage d'épopée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Charlemagne et qu'il n'y a pas eu de combat de Charlemagne? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Est-ce que la chanson de Roland est historique? Oui, c'est une épopée qui tire ses racines de l'histoire. C'est vraiment historique. Et en même temps, je ne sais pas si l'image d'Abraham que vous avez dans votre tête a jamais existé sinon dans votre tête. Mais l'Abraham du livre, là, je le connais. L'Abraham du livre, ça, c'est un homme extraordinaire.